accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
C'est le premier grand scandale MeToo aux Pays-Bas. Le royaume néerlandais, qui avait jusqu'ici été plutôt épargné par l'onde de choc du mouvement MeToo parti des États-Unis en 2017, eh bien, depuis le début de l'année, les révélations choquent d'un reportage sur des comportements abusifs au sein de la célèbre émission musicale The Voice ont secoué les Néerlandais et comme ouvert la boîte de Pandore. Une succession de révélations sur des cas de harcèlement sexuel a eu lieu depuis, jusque dans l'un des partis de la coalition gouvernementale. Et ce lundi, le parquet néerlandais a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire suite aux accusations d'agression sexuelle ayant éclaboussé l'émission The Voice Hollande. Le reportage à Amsterdam d'Antoine Moutot.
De grands logos, des vitrines colorées et d'immenses studios d'enregistrement. Au premier abord, le Mediapark d'Hilversum est un endroit sympathique et surtout chargé d'histoire. C'est dans ce complexe situé à une trentaine de kilomètres au sud d'Amsterdam que depuis les années 60, les Néerlandais font de la radio et de la télévision. Mais à en croire les récents témoignages de nombreuses victimes présumées, c'est aussi ici que pendant des années, des femmes et très jeunes femmes, parfois des mineurs, ont vécu l'enfer des violences sexuelles.
Bonjour et bienvenue dans Bouche. Vous allez regarder un épisode consacré à de présumés comportements sexuels inappropriés et abus de pouvoir dans le cadre de l'émission de télécrochet The Voice of Holland.
Selon une enquête de la télévision publique diffusée en janvier dernier, depuis son lancement il y a 10 ans, la version néerlandaise de la célèbre émission The Voice et The Voice Kids ont été le théâtre de cas de harcèlement, attouchement et viol. Comme l'explique Tim Hoffman, qui a participé à cette enquête télévisée.
Pour ce documentaire, nous avons parlé à des dizaines de personnes. Seulement une partie d'entre elles ont accepté de s'exprimer devant les caméras. C'est surtout parce que les gens ont peur de la tempête médiatique, de la possible fin de leur carrière, ou tout simplement peur de personnes avec plus de pouvoir qu'elles.
Suite aux témoignages récoltés, trois personnes en particulier sont mises en cause. Deux membres du jury, des chanteurs connus ici aux Pays-Bas, mais aussi le beau-frère du créateur du programme et fondateur d'Endemol, John de Mol, notamment célèbre pour avoir répandu la télé-réalité en Europe. Les témoignages sont glaçants.
Il m'a dit que je ne pouvais pas être trop sexy pendant les jours de tournage, car sinon, il me sauterait dessus.
J'ai essayé de le retenir, mais il continuait.
J'avais 18 ans lorsque j'ai participé à The Voice. Après les enregistrements, j'étais à l'extérieur et Yoren est venu me parler. En partant, il m'a dit en ricanant « J'ai un très grand pénis, c'est venu comme ça, de nulle part ».
Depuis la diffusion de ce documentaire, toutes les émissions The Voice et The Voice Kids ont été suspendues. Le parquet néerlandais a appelé les victimes à se manifester. Et pendant des semaines, il ne passe pratiquement plus un jour sans de nouvelles accusations. Rapidement, une manifestation de soutien envers toutes les victimes de violences sexuelles a lieu à Amsterdam. Des dizaines de femmes et une poignée d'hommes sont rassemblés sur le Museumplein dans le centre de la capitale. Parmi eux, Iske Bonhartz, elle-même candidate de The Voice en 2019.
Moi-même, je n'ai pas été confrontée à ce type de choses chez The Voice, mais je connais un certain nombre de femmes qui, au cours des dernières semaines, ont en effet raconté leur histoire. Et oui, quand tu entends ça, il y a de quoi être malade, malade à vomir. Même.
Sur le podium, Mandy Slypen raconte sa propre histoire. C'est en grande partie grâce à elle et son appel à manifester que ce rassemblement a lieu.
Ça m'a beaucoup touchée quand j'ai vu ça. J'ai moi-même été victime d'abus sexuels de mes 8 à mes 14 ans. C'était mon grand-père. Même ma famille fermait les yeux, même quand il a été condamné, ça n'a rien changé. Il faut que quelque chose bouge et je me suis dit, si je ne m'élève pas contre ça, qui va le faire? J'espère que beaucoup se lèveront avec moi et c'est le cas aujourd'hui.
Mais selon elle, sans le courage des anciennes candidates de The Voice, le chemin vers une prise de conscience à grande échelle aux Pays-Bas serait encore long. Comme beaucoup ici, elle se dit reconnaissante envers elle.
Grâce aux victimes de The Voice qui se sont confiées, je pense que de plus en plus de victimes oseront parler. The Voice est un programme très connu et à mon avis, ça a ouvert la boîte de Pandore. Et peut-être que jusqu'à maintenant, ce n'était pas encore le moment. Souvent, les victimes ont honte.
Ce que veulent concrètement les manifestants présents ici, c'est l'entrée en vigueur d'urgence d'une nouvelle loi en préparation depuis des années et qui doit simplifier les démarches des victimes pour porter plainte. Mais interrogé en février, le Premier ministre Mark Rutte ne semblait pas particulièrement pressé.
Nous faisons de notre mieux. J'imagine que vous parlez de la loi sur laquelle a travaillé l'ancien ministre de la Justice. Nous voulons la faire entrer en vigueur le plus rapidement possible. Mais faire passer une loi ne se fait pas en une nuit. Le plus tôt sera mieux.
Entre-temps, la vague MeToo de Voice of Holland s'est rapidement étendue à d'autres secteurs. Un journaliste vedette, spécialiste du crime, a ainsi été suspendu pendant plusieurs mois après les accusations de cette femme. Selon elle, il s'est à plusieurs reprises rendu coupable de gestes et propos déplacés. La ministre des Finances et chef du parti centriste des SNZ-Ester, Sigrid Kaar, est à son tour empêtrée dans un scandale de violence sexuelle. Elle est accusée d'avoir pendant de longs mois ignoré les signalements d'une femme qui s'explique victime de harcèlement de la part d'une figure importante du parti.
Mach doch was ich will. Das mache ich schließlich auch. Mach doch was ich will. Gib deinen Willen auf.
L'espace public et comment il est façonné peut lui aussi contribuer à réduire les risques d'agression. Exemple avec les parkings souterrains, plus ou moins bien éclairés ou sécurisés. En Allemagne, dès les années 90, le pays a donc décidé de créer des places de parking réservées aux femmes vu qu'elles sont plus souvent victimes d'agressions. Mais plus de 30 ans plus tard, cette idée continue de faire polémique. À Berlin, les explications de Julien Méchaussi.
Des places mieux éclairées, peintes dans une couleur vive, sous vidéosurveillance et proches de sortie ou de la cabine du gardien du parking. Depuis une trentaine d'années, les conductrices allemandes bénéficient d'emplacements qui leur sont réservés, les Frauenparkplätze. Pays pionnier en la matière, la législation allemande fixe même la proportion de places de parking dont doivent bénéficier les femmes. S'il existe des différences entre les Länder, cette réglementation peut concerner ainsi jusqu'à 30% des emplacements. Bien que cela continue d'étonner encore les visiteurs étrangers, les Allemandes et les Allemands s'y sont pleinement habitués. Malgré l'absence d'amende prévue par la législation, il est ainsi très rare de voir des hommes y garer leur véhicule. La pression sociale joue ici pleinement son rôle. Pourtant, ces places de parking font toujours débat, notamment chez les défenseurs des droits des femmes. Louées pour leur effet sur la sécurité des femmes seules et la diminution du risque d'agression, c'est leur taille qui ne cesse d'être critiquée. Ces places sont en effet plus larges que les autres non réservés. La raison ? Pouvoir charger et décharger plus facilement les poussettes ou encore les courses. Et donc cette idée tenace que les femmes seraient celles qui s'occupent des enfants et du foyer. Certains expliquent même cet espace plus large par le cliché des femmes qui auraient plus de mal à se garer. En Bavière, un homme a dernièrement porté plainte contre les places réservées aux femmes. Son argument, il serait discriminé en tant qu'homme. Le tribunal n'a pas manqué de lui rappeler un fait, les femmes sont bien plus souvent victimes de violences sexuelles que les hommes et les parkings restent un lieu privilégié par les agresseurs.
Près de 60% des animaux sauvages ont déjà disparu depuis 40 ans et plus de 500 espèces de vertébrés seraient sur le point de disparaître car leur population ne dépasse pas 1000 individus. Face à ce terrible constat, une réponse est proposée par les défenseurs de l'environnement. Laisser la nature reprendre ses droits sur de larges zones pour donner une chance aux espèces animales et végétales de se régénérer et de ne pas disparaître face à l'homme. Ce concept a un nom. Le réensauvagement, et en Europe, il gagne du terrain, Alice Roujat.
On connaît peut-être mieux l'expression en anglais « rewilding », devenue célèbre depuis le succès de la réintroduction du loup dans le parc américain du Yellowstone en 1995. Réensauvager, c'est l'idée de restaurer des écosystèmes disparus à cause de l'intervention humaine. Et la réintroduction de certaines espèces prédatrices comme le loup ou de grands herbivores suffit à rétablir un équilibre naturel. Mais en Europe, de tels espaces sont rares. Et depuis 2011, l'ONG Rewilding Europe tente de changer la donne. Comme en Roumanie, où des bisons disparus depuis 1927 ont été réintroduits dans la zone des Carpates pour favoriser la biodiversité végétale, ou au Portugal, où des chevaux sauvages foulent désormais le sol de la Faia Brava dans le centre du pays. En France, Rewilding Europe a aussi permis de réintroduire des ours et des loups dans les zones montagneuses. Mais ce qui est facile à entreprendre aux États-Unis, l'est moins en Europe, pour une simple raison, le manque d'espace. Il n'existe pas de zone complètement sauvage, si ce n'est dans le nord de la Scandinavie. Parce que l'Europe est trop urbanisée. Un quart du territoire se situe à moins de 500 mètres d'une route. Alors depuis la troisième conférence sur la nature sauvage qui s'est tenue en Écosse en 1980, les projets européens sont de plus en plus nombreux. Mais pour l'heure, cela s'apparente plus à de la conservation qu'à un véritable réensauvagement.
Dans un récent rapport, l'ONU a conclu qu'il faudrait laisser la nature reprendre ses droits sur une zone de la taille de la Chine pour maintenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés. En Irlande, un lord a décidé de mettre sa pierre à l'édifice. Depuis 8 ans, Randall Plunkett ne touche plus aux 700 hectares qui entourent son château à Dunsany, situé à quelques kilomètres à l'ouest de Dublin. C'est le plus gros projet de réensauvagement irlandais. Rencontre avec ce lord, pas comme les autres, au micro de Laura Taouchanoff.
On se trouve devant une forteresse gothique du XIIe siècle, avec ses quatre tours en pierre. Le dernier héritier ici s'appelle Lord Randall Plunkett. Il a 39 ans et il ne ressemble pas vraiment à ses ancêtres. Lui a de longs cheveux noirs, il est fan de métal, féministe, vegan, et surtout il a décidé de transformer son domaine en réserve naturelle. Donc ici, par exemple, on n'a pas de jardinier qui passe la tondeuse. Les pesticides sont interdits et il n'y a plus de bétail.
My name is Randall Plunkett.
Je m'appelle Randall Plunkett. Je suis le 21e lord de Dunsany. J'ai hérité de cet endroit à la mort de mon père en 2011. Avant qu'il meure, je lui ai demandé « Où sont passés tous les animaux? Je ne vois que des corbeaux. » Lui m'a répondu « Oh oui, il y en avait beaucoup à l'époque et il n'y en a plus. Pourquoi » Pourquoi? Je lui ai demandé. Il m'a répondu « C'est le progrès. » Moi, j'ai dit « Ça ne me suffit pas. »
Et donc là, ce qu'on voit par la fenêtre, ça n'a pas été touché depuis combien de temps?
On n'a pas tondu l'herbe depuis plus de 8 ans. Ça vit, ça fleurit, ça meurt, ça pourrit. C'est le cercle de la vie. On laisse les choses se faire. Allez, allons-y. On appelle ça la forêt fleurie. Vous voyez, il y a plein d'arbres sains qui poussent. Tout se régénère naturellement. On n'a rien planté. On a découvert un champignon rare qui n'a jamais été vu en Irlande, je crois. Une sorte de puccinia. Cet arbre là-bas est tombé, puis il est resté mort 3 ans. Et il a ressuscité, alors on l'appelle Jésus.
Et vous dites que l'été, là, vous marchez ici et vous avez l'herbe qui est plus haute que vous?
Je mesure 1m83 et l'herbe faisait ma taille.
Quels animaux vous voyez ici le plus souvent?
Alors, vous avez des cerfs, des lapins, des lièvres, plein d'espèces d'oiseaux, des petites grenouilles, des insectes. On voit même des renards, des martres, des hérissons, des blaireaux. Comme je vous le disais quand j'ai commencé, il n'y en avait pas beaucoup. Mais maintenant, cet endroit est plein d'animaux, on dirait une jungle. Si vous venez à l'aube, ça ressemble à l'Amazonie.
Et donc là, dans quelques années, on ne pourra plus passer par ici?
A priori, ce sera un mur de végétation très épais, mais peut-être qu'un de ces arbres tombera et nous ouvrira un passage.
Il sert à quoi, là, ce grand câble métallique?
Alors ça, c'est une tyrolienne. Parfois, on sait s'amuser avec le réensauvagement. Ces petites plantes que vous voyez dans l'herbe sont en fait des fleurs très anciennes. Certaines sont médicinales. Je crois que celle-ci est bonne pour le ventre. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vous conseillerais pas de vous traiter avec, mais c'est ça qui est amusant. C'est un voyage de découverte infinie.
Mais parce que c'est ça, en fait, vous n'étiez pas du tout expert, vous avez dû apprendre sur le tas, vous former avec des scientifiques. Comment vous avez fait pour comprendre tout ce qui se passait autour de vous?
Quand j'ai commencé, j'étais incapable de différencier un être d'un chêne. Et puis j'ai écouté les gens, j'ai étudié, j'ai lu et j'ai surtout observé.
Alors ici, c'était un ancien terrain de tennis.
Moi, je suis plutôt branché UFC, alors on l'a transformé en refuge pour loutres. Il y en a 4 qui vivent dedans. Vous voyez là? Il y en a une qui sort sa tête, mais on finira par les relâcher dans la nature.
Comment votre famille elle a réagi suite à cette décision de tout laisser à l'état naturel?
Tout le monde m'a prévenu, ne fais pas ça, tu vas bousiller la terre, on me disait. On a aussi perdu beaucoup d'argent puisque j'ai transformé des terres agricoles très rentables en un paradis de nature.
Et sur vos terres, il y a toujours eu une forte tradition de chasse. Comment ça se passe maintenant? Vous leur interdisez tout simplement l'accès?
Quand j'ai repris Dunsany, j'ai tiré un trait dans le sable en disant « cela n'arrivera plus ». Et puis ils ont commencé à venir la nuit. Alors je me suis mis à patrouiller à 1h ou 2h du matin à la recherche de lumière dans les champs. J'ai commencé à venir à l'aube et je me suis retrouvé face à plusieurs chasseurs. On a menacé de me tailler le visage, de crever mes pneus, mais il en faudra beaucoup plus pour m'arrêter. On a caché des caméras dans les bois pour les coincer. Vous savez, c'est une guerre pour le changement climatique. Et si on veut vivre encore plusieurs générations, alors il faudra changer nos modes de vie. Les Européens le savent, on s'est toujours battu pour ce qu'on a eu, et là, ce sera pareil.
La dernière expérience en date de ce Lord, pas comme les autres, essayer de réintroduire des abeilles noires, pas loin de l'extinction en Irlande.
La guerre en Ukraine, alors que les combats se poursuivent, une autre bataille se dessine déjà, celle des poursuites qui seront intentées contre la Russie pour les crimes de guerre dont elle est accusée. Et à la tête de cette offensive judiciaire, il y a une femme, Irina Venediktova, la procureure générale d'Ukraine, son portrait signé Daniel Valouf.
Ukrainian citizens, they're still under attack.
Nous sommes le 12 avril dernier à Boutcha, dans la banlieue de Kiev. Irina Venediktova s'adresse aux journalistes venus constater sur place les crimes imputés aux forces russes.
Ici, tout ce que vous voyez autour, ce sont des crimes de guerre. Nous sommes à Boutcha où ils ont tué, torturé et commis des crimes sexuels. Dans la région de Kiev, il y a un très grand nombre de crimes de guerre. Et nous pouvons qualifier tout cela de crimes contre l'humanité.
Cheveux noirs coupés au carré, regard franc et déterminé, Irina Venediktova était la conseillère juridique de Volodymyr Zelensky lorsque celui-ci briguait la présidence. Devenue députée en 2019, elle est nommée procureure générale d'Ukraine en mars 2020. Mais son destin bascule 2 ans plus tard, lorsque la Russie déclare la guerre à l'Ukraine. Dès les premiers jours du conflit, elle s'investit totalement dans la traque des crimes de guerre et devient, comme nous l'explique la journaliste ukrainienne Tetiana Rogakova, le fer de lance de cette bataille judiciaire contre la Russie.
C'est elle qui est le centre en fait, des décisions et de l'enquête. Elle représente justement le point de repère de tout ce dossier contre l'armée russe et la Russie en général. Je crois qu'elle est méthodique, qu'elle est une vraie juriste. Elle dispose de pouvoir maximal pour justement mobiliser les enquêteurs, la police dans ce processus de la collecte de preuves.
À ce jour, plus de 8000 enquêtes ont été ouvertes par le parquet ukrainien qui a identifié plusieurs centaines de suspects. Des témoignages précieux ont été recueillis, des preuves collectées. Un travail qu'il faut faire vite pour éviter que ces preuves ne disparaissent. Maria Struthers de l'ONG Amnesty International.
Le plus que le temps passe, le plus que les signes, par exemple, de torture disparaissent, non ? Et aussi, la mémoire change avec le temps. Donc, c'est important de capter le plus rapidement possible les témoignages des victimes, parce que ça change avec le temps. C'est bien d'aller très vite, mais il faut que ces preuves correspondent à des normes internationales pour qu'elles puissent être acceptable et accepté par des cours internationales comme la Cour pénale internationale.
Car l'ambition de l'Ukraine et d'Irina Venediktova, c'est que ces crimes puissent être jugés devant la Cour pénale internationale. Un objectif qu'il sera cependant très difficile d'atteindre.
La Russie ne fait pas partie de ce qu'on appelle le statut de Rome, qui est la fondation de la Cour pénale internationale. Donc, en principe, puisque la Russie n'en fait pas partie, on ne peut pas traduire en justice physiquement les officiers russes ou les représentants du gouvernement russe physiquement devant la cour. Mais on n'est pas sans espoir, parce qu'on pensait que M. Milosevic, en ex-Yougoslavie, n'était pour jamais être traduit en justice. Mais finalement, les circonstances politiques ont changé et voilà, il a été traduit en justice.
Un précédent yougoslave qui pourrait inspirer les autorités ukrainiennes. Car Irina Venediktova ne s'en cache pas, son objectif ultime est bien de pouvoir traîner en justice Vladimir Poutine, le président russe. C'est lui, dit-elle, qui a commencé cette guerre et qui la poursuit. Ce sont ses soldats qui ont tué des femmes, des enfants et des vieillards.
Accent d'Europe, Donatien Cahut à la réalisation. Retrouvez-nous sur notre site ou abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes d'écoute. À demain.